Et il est 19h22.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saintès.
Je m'en vais, dit Bernard Cazeneuve. Je récuse, dit François Hollande, après l'accord passé entre le PS et les Insoumis en vue des législatives. On entend parler tripatouillage, rafistolage, on entend gronder les fédérations, gronder sur le fond et aussi sur les circonscriptions. Ça va tanguer au bureau puis au Conseil national du Parti Socialiste parce que ce qui se joue, c'est un en même temps qui laisse parfois un goût amer, à la fois la survie, mais aussi l'enterrement du PS tel qu'on l'a connu ces 50 dernières années et plus. Ça va tanguer entre les anciens et les modernes, peut-être, ça va tanguer entre ceux qui disent « sans moi » et ceux qui disent « ben, quoi d'autre ?» Ça va tanguer avec les barons, les éléphants, ça va tanguer avec ceux qui se voient privés de leur circonscription qu'ils estimaient gagnable entre le Parti Socialiste et la France Insoumise. En plus, et ça n'est pas une surprise, c'est un peu la chanson des vieux amants, il y a tellement d'éclats de vieilles tempêtes que plus rien ne ressemble à rien. La difficulté pour le PS, c'est cette équation impossible, le plus mauvais score de la gauche au premier tour, mais le meilleur ancrage et le plus de circonscription, quel que soit l'épilogue qui adviendra probablement dès que l'encre de l'accord sera sèche, comme le disait ce matin l'ami Thomas Legrand, quel que soit l'épisode. Donc l'épilogue, c'est un morceau d'histoire du PS qui s'écrit sur les morceaux du PS. Et c'est le téléphone sonne ce soir. Soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et le premier, c'est vous, Georges. Soyez le bienvenu et bonsoir.
Oui, bonsoir. Moi, j'ai adhéré au PS pendant la campagne de l'élection présidentielle de 1981. Donc, ça fait un bon moment. Et là, à la dernière élection présidentielle, au premier tour, jusque dans l'isoloir, j'ai hésité pour savoir pour qui j'allais voter. Et finalement, dans le but unique de faire barrage à un deuxième tour, Macron-Le Pen, j'ai mis un bulletin Mélenchon. Et quand j'entends maintenant que dans le Mélenchon veut faire une sorte de hold-up sur la gauche, veut faire croire que tous ceux qui ont voté pour lui auront adhéré à son projet, et que donc on doit tous les militants, tous les gens, les sympathisants du PS doivent adopter ses postures et son programme, je trouve que c'est très abusif de sa part. Et je comprends tout à fait que des gens comme Bernard Cazeneuve disent aujourd'hui qu'il quitte le PS.
Et du coup, vous savez ce que vous faites, Georges, aux élections législatives ou au dernier moment, comme au présidentiel, vous finirez par choisir ?
Non, je pense que, dans mon esprit, je pense que je ne pourrais pas... Enfin, autant il y avait un risque d'avoir un deuxième tour Le Pen-Macron, et là, ça aurait été avec le risque d'avoir Le Pen qui soit élu, autant aux élections législatives, je ne pense pas qu'il y ait de risque. Et en plus, moi, j'habite en Bretagne, je ne pense pas qu'il y ait de risque que Mme Le Pen soit élue députée dans la circonscription où je vote.
Mais donc, ça veut dire que vous n'y allez pas. En fait, s'il faut voter pour quelqu'un pointé par la France Insoumise, vous décidez que vous préférez ne pas y aller ou vous faites
je voterai pour Macron.
D'accord. D'accord. Merci beaucoup pour cette entrée en matière, Georges, pour discuter ensemble. Et vous êtes très nombreux, c'est tant mieux, au standard. Thomas Legrand est avec nous. Bonsoir, Thomas.
Bonsoir, Fabienne.
Éditorialiste sur France Inter, que j'ai donc cité il y a un tout petit instant. Et Rachid Lahirèche est là également. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste politique à Libération. Ce que nous dit Georges, je vais vous poser la question à tous les deux. On va commencer avec vous, Thomas Legrand, si vous le voulez bien. Ce que nous dit Georges, et c'est ce qu'on pointait déjà un peu, d'ailleurs, hier, en discutant d'un sujet un peu connexe, c'est que certains militants ont le sentiment que on a oublié du côté de la France Insoumise que les 22% de Jean-Luc Mélenchon ne sont pas 22% d'adhésion. Est-ce que c'est aussi ce que vous sentez ou pas du tout ?
Bien sûr, mais un vote est un vote. C'est un peu ce qu'on reproche aussi à Emmanuel Macron.
Hein. Exactement, c'est pour ça que
d'ailleurs,
je pose
Jean-Luc
la question.
Mélenchon le reproche à Emmanuel Macron. C'est vrai que la France Insoumise, c'était... avant cette poussée qui était due au vote utile, c'était entre 16 et 17%. Mais ils ont fait 22%. Et 22%, c'est peut-être un vote stratégique et un vote utile, mais c'est aussi un vote... Moi, j'ai du mal à séparer vote utile et vote de valeur. Quand on veut dégager Marine Le Pen, ça répond à certaines valeurs. Et il a choisi, pas par hasard, il a choisi le bulletin Mélenchon. Alors... il se trouve que les négociateurs verts, parmi les négociateurs d'Europe Écologie, les Verts, qui ont participé à la négociation, certains m'ont dit qu'ils avaient utilisé cet argument et que les Insoumis avaient dit c'est vrai, on reconnaît que, en tout cas entre eux ils le faisaient, hein, on reconnaît que si on a fait 22%, c'est un peu sur votre dos et sur le vote utile. Et c'est pour ça que les écologistes sont plutôt bien servis. En tout cas, ils se considèrent comme pas trop mal servis, avec une centaine de circonscriptions qui leur sont dédiées. Donc, les insoumis prennent ça en considération aussi dans les négociations. En tout cas, avec les écologistes, avec les socialistes, je ne sais pas. Peut-être que Rachid a des informations là-dessus.
Eh bien, justement, j'allais vous demander, Rachid Lahiré, est-ce qu'on dit que le PS a été bien servi au terme de ce qu'on sait de l'accord ce soir ?
Moi, en tout cas, le PS n'a pas été mal servi. Ils font moins de 2%, ce qui est un score incroyable. Moins que Jean Lassalle et moins que Dupont-Aignan. Et ils se retrouvent avec 70 circos et dont, on va dire, 35-40 gagnables.
Ils en ont 27. Ils ont 27 députés.
Ils en ont 27 aujourd'hui.
Et il faut 15 députés pour faire un groupe.
Donc, le PS, seul dans son coin, c'est, je crois, c'est 3 députés, 4 députés, sans l'Union. Donc, est-ce que le PS est mal servi ? Je dirais non. Mais pas très bien servi, mais c'est pas mal servi. Je pense qu'ils sont assez satisfaits.
Mais du coup, ce qu'on voit poindre, et on voit bien que ça va être très très houleux demain dans cette fameuse réunion, qu'est-ce que ça dit en fait ? Ça dit une espèce de guerre, je disais en lancement, des anciens et des modernes, des barons, des éléphants, comme on dit, les Cazeneuve, les Lofol, les Cambadélis, contre une autre garde du Parti Socialiste. Est-ce que c'est, on va vraiment le dire comme ça, est-ce que c'est le cimetière des éléphants là qui est en train de s'exprimer, ou est-ce que c'est un peu autre chose ?
Mais la guerre a débuté en 2017, quand Benoît Hamon gagne la primaire, en 2016. Elle n'est pas nouvelle. Benoît Hamon fait une campagne sans eux, même contre eux. Certains vont chez Macron et d'autres ne font rien, ne l'aident pas. Bartolone, Cazeneuve, Hollande, n'aident pas Benoît Hamon. Donc la fracture commence là. Ensuite, Olivier Faure gagne le congrès en 2018 contre eux. Et il gagne au premier tour. Ensuite, aux européennes, il met Raphaël Glucksmann contre eux. Ensuite, il refait un congrès, il regagne contre eux. Donc c'est une guerre qui remonte à assez loin, c'est pas nouveau. Et là, la goutte d'eau, c'est Mélenchon. Pour eux, c'est le diable. Donc ils s'allient avec le diable, donc pour eux c'est une défaite atroce pour François Hollande, pour Cazeneuve, pour Jean-Marc Ayrault. Mais c'est une guerre qui monte à très loin. Et il ne faut pas l'oublier, c'est très important, Olivier Faure gagne le PS et le Congrès sur un programme d'union. Il dit, moi je suis, nous ne sommes plus hégémoniques, c'est terminé. Donc le PS se reconstruit et le PS se reconstruit dans l'union, nous ne sommes plus les plus forts. Et ça il l'a toujours dit. Et durant la présidentielle, il a fait une parenthèse avec Hidalgo, où il s'est dit, on est hégémonique et on a vu le score. Mais depuis son élection, il se base sur l'union. Donc c'est pas trop une surprise, en fait, l'union.
L'idée de l'union était plutôt d'abord avec les écologistes. L'idée d'Olivier Faure et les écologistes, c'était finalement d'arriver, enfin ceux qui voulaient s'unir dans ces deux partis, parce qu'il y avait aussi des ambitions personnelles, mais c'était d'arriver à proposer une offre sociale, démocrate, écologiste, les écologistes ayant besoin de l'expertise sociale et régalienne des socialistes, et puis de leur cadre aussi, et les socialistes ayant besoin de l'innovation intellectuelle et idéologique des écologistes. Ils n'ont pas réussi à le faire, ils n'ont pas réussi à faire cette union, ça leur a été reproché. Et maintenant, ils se retrouvent face à une hégémonie insoumise et ils doivent passer sous les fourches codines. Mais pour répondre à la question de la génération ou de l'idéologie, il y a un peu des deux. Il y a quand même une question de génération. Il y a aussi un peu d'idéologie, mais il y a quand même une question de génération. Moi, j'ai parlé à des proches d'Olivier Faure qui se disent eux-mêmes social libéral, qui dans le cadre d'un second tour, me disent-ils, aurait un second tour Mélenchon Macron, aurait voté Macron, et qui sont favorables à cet accord parce que c'est un accord d'abord pour sauver des circonscriptions. Et de mon point de vue, je sais pas si Rachid sera d'accord avec moi, mais de mon point de vue, le fond est secondaire là. On signe des choses qui sont assez floues, on met beaucoup de choses sous le tapis, et c'est pas anormal parce que c'est dans le cadre d'une opposition. La France Insoumise dit on peut gagner, mais c'est plutôt dans le cadre d'une opposition et pour survivre, pour avoir un groupe. Et voilà, on affirme qu'on est de gauche, on est du même camp et on est devant un tableau Excel et on essaye de savoir qui est le meilleur au bon endroit en respectant certains équilibres, c'est-à-dire une domination insoumise et puis un groupe possible pour les écologistes et les socialistes.
Avant de retourner au standard, Rachid Lahiré, parce que vous l'avez un peu évoqué, est-ce que ça dit surtout, notamment de la part de ces historiques, les barons du PS, ça parle surtout d'un problème de personne avec Jean-Luc Mélenchon. Si on se projetait différemment et que certes la France Insoumise avait gagné mais qu'elle n'était pas incarnée par cet homme, est-ce que vous croyez pas que la discussion, là ce soir, serait intégralement différente ?
Il y a quand même un problème de fond.
Ah oui, il y a l'Europe.
Il y a l'Europe, il y a la politique étrangère, il y a du fond. Mais Mélenchon, c'est la rupture.
Finance publique.
En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Mélenchon a quitté le PS parce qu'elle choisit, était dans l'opposition, et que là, il gagne un congrès de l'extérieur. Donc il a quitté le PS, il a mené son chemin, et là, il revient avec le PS en disant « Alors, j'avais raison maintenant, venez me voir, installez-vous à table. » C'est ça qui se passe. Il a gagné un congrès à l'envers, en fait, sans être au PS. Et pour lui, c'est important.
Est-ce qu'on sait d'ailleurs, parce qu'on va parler des discussions programmatiques dans un tout petit instant, de ce qu'on a laissé, de ce qu'on n'a pas laissé, et surtout, c'est ça qui est toujours très intéressant, ce qui a été, comment ça a été formulé dans l'accord avec les Verts, comment c'est formulé dans l'accord avec les communistes, comment c'est formulé dans l'accord avec avec le Parti Socialiste. Mais qu'est-ce qu'on sait des affiches, par exemple? Est-ce que, oui ou non, chez les socialistes, c'est une affiche Jean-Luc Mélenchon, élisez-moi Premier ministre, avec en petit le nom du socialiste en dessous, est-ce qu'on sait ça ou pas?
Non, ce sera pas ça. Ce sera pas ça.
Ce sera pas ça, c'est
non,
sûr.
Non, c'est sûr. C'est sûr et certain. Ni les communistes, ni les écologistes. Eux, l'accord qu'ils disent, c'est qu'ils disent à Mélenchon, promis si on gagne, c'est toi qui vas à Matignon. Mais sur les affiches, ce sera Union Populaire, Nouvelle Union Populaire, Écologiste et Sociale. Ce sera pas Mélenchon Premier ministre.
Allez, puisqu'on parlait des ténors, voici la question de David. Bonsoir, David.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, David.
De Belgique, je suis un Français de Belgique. Moi, je suis très étonné. Je trouve que les ténors du Parti Socialiste, c'est Gozzi, mais ce ne sont pas de fameux musiciens. Ils oublient de dire que, enfin, ils oublient de penser, sûrement, et de concevoir qu'ils ont eux-mêmes tué le PS, et que déjà la grande moitié du PS est déjà chez Macron. Donc, voilà. Est-ce que ce ne sont pas eux qui ont, surtout depuis la présidence Hollande, tuer la teneur sociale du Parti Socialiste.
Ce que disent ces militants-là, Thomas Legrand, c'est oui. On a le PS qu'on mérite, c'est ça que ça
oui,
dit.
Oui, on se demande depuis quelques années si on est encore dans la désintégration du monde politique ou si on est déjà dans la recomposition du monde politique. Peut-être qu'à gauche, on est déjà un peu dans la recomposition du monde politique. Ça passe pour l'instant par des histoires d'appareils, et ça commence toujours comme ça, qui va être élu où, et il va falloir se mettre d'accord après sur des programmes, c'est-à-dire des programmes voisins et compatibles. C'est pas le cas pour l'instant. On va pouvoir venir tout à l'heure, s'il y a des questions sur les différentes formulations, et sur le fait d'ailleurs que les Insoumis ont signé des textes différents avec chacun des partenaires, ce qui dans le cadre d'une volonté de gouverner est absolument absurde. Soit on fait un texte qu'on négocie avec tout le monde, soit mais on peut pas faire.
Mais comme vous le disiez, Thomas, au fond, ça n'a pas d'importance. Ça a une importance énorme en soi, mais à ce moment-là, ça n'a pas d'importance.
Pour l'instant, ça n'a pas d'importance. Mais là où quelque chose change, et ça, c'est une réflexion qu'on peut avoir sur nos institutions. Quand on est en période présidentielle, on met l'accent sur ce qui nous différencie. C'est embêtant d'ailleurs pour l'ambiance politique en France que la présidence soit l'élection phare, parce que ça imprime cette culture de l'affrontement et de la différenciation permanente. Et puis quand on est en période parlementaire, et ben là on vit un peu comme dans les pays où les parlements sont le plus fort, surtout quand les partis sont faibles et qu'ils ont besoin de s'entendre, et ben on met l'accent sur ce sur quoi on peut être d'accord ou ce sur quoi on peut progresser. Alors nous, on n'a pas l'habitude, parce qu'on se dit, mais comment ils pourraient faire alors qu'ils sont pas d'accord sur l'Europe, sur l'OTAN, sur l'Ukraine, etc., sur les finances public. Mais on peut aussi regarder ce qui va dans le bon sens. Et il y a un sondage très instructif de Elab qui est sorti hier, ce matin plutôt. 64% des Français pensent qu'il y a plus de choses en commun entre les socialistes, les écologistes et les insoumis que de choses qui les différencient. Évidemment, si on regarde dans le détail, ce qui les différencie est tellement énorme et tellement crucial qu'ils ne pourraient pas, en l'état, gouverner ensemble. Mais voilà, il y a cet état d'esprit. Ben tiens, si on essayait de regarder ce qui nous rapproche, et ça. Il y a une soif dans la population, parce que la population française continue à aimer la politique, et il y a une soif aussi dans le peuple, comme on dit, le peuple de gauche, qui a envie d'union, même si c'est très compliqué et même si c'est plein de contradictions.
Eh bien justement, c'est Daniel qui nous aide à poursuivre dans ce sens-là. Bonsoir Daniel.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Oui, en effet, je poursuis dans ce sens-là. Je suis dans une campagne qui avait voté majoritairement et même plus, enfin qui avait vraiment porté François Mitterrand en 81 à la tête du pays. Et là, aux dernières élections, c'est Marine Le Pen qui est arrivée en tête. Et donc, moi, j'ai voté Mélenchon alors que je suis socialiste depuis 1976. Et j'ai voté
parce que j'ai entendu la souffrance qui existe dans nos campagnes, dans l'agriculture, par rapport à les diversifications, les services publics. Et ça, cette colère, je pense que si on n'a pas une alternative à gauche, elle va s'exprimer différemment que dans les urnes. Donc je pense que ce n'est pas l'idéal, mais que ça permet aux personnes de se choisir un autre camp que Marine Le Pen.
Daniel, pardon de vous interrompre, mais on vous entend tellement loin et tellement mal. Mais j'ai entendu, ouais, on a compris ce que vous nous disiez. Et du coup, la question qui me vient, Rachid Lahirech, c'est est-ce que ce qu'on va voir demain, c'est pas justement qu'il risque d'y avoir un trou béant entre le Conseil national et comment on s'écharpera peut-être à l'intérieur de ce Conseil national et ce que disent les militants, comme Daniel, et peut-être en majorité.
J'en suis pas sûr. Hein. Mm-hmm. Pour l'instant, Afor a gagné tous ses votes. Hein. Les éléphants, comme on dit, ont tout perdu depuis 6 ans face à lui. Donc, c'est pas certain. Hein. Je pense que
donc, ça va passer crème, en fait, vous dites-vous, au Conseil national.
Pas crème, mais Olivier Faure, lui, aurait pu faire le Conseil ce soir. Il l'a repoussé à demain pour prendre le temps d'appeler les élus locaux, les militants et les convaincre. Donc là, il travaille à cette heure-ci. Donc, je pense, on est dans le pari, mais que ça passe. Mmh. Pas crème, mais ça passe, quoi. Donc,
et on est
et surtout, les éléphants ne sont plus au Conseil. Stéphane Le Foll n'est plus là, Comadelis n'est plus là, Hollande n'est plus là, Cazeneuve n'est plus là. Donc ils parlent de l'extérieur du PS. Depuis 5 ans, ils n'ont plus mis un pied au PS. Donc c'est aussi important à souligner.
Et ce que dit Daniel Thomas Legrand, je voudrais rebondir sur ce que vous disiez précisément vous avant. Au fond, le dénominateur commun, et si on enlève, comme on le disait, tout ce qui est programmatique et qui effectivement paraît un peu incohérent, le dénominateur commun finalement entre dans cette alliance à gauche, est-ce que c'est pas ça, tout simplement, la colère qu'exprime Daniel?
Oui, depuis des années. On commente la vie politique et la décrépitude de la gauche en disant que la gauche s'est désarimée avec le peuple et de la colère du peuple, qu'elle est que la gauche c'est le parti des gens qui vont bien dans les villes, dans les centres-villes. Là, il y a un parti, la France Insoumise, qui essaye de s'adresser au peuple et aux fâchés pas fachos, disait à un moment Jean-Luc Mélenchon. Ouais. Alors il le fait avec les excès, avec les outrances, avec parfois même des mensonges, parfois, avec quelquefois des choses qui peuvent choquer. Ses positions sur la Russie, sur la Syrie peuvent choquer et sont choquantes de mon point de vue. Mais il s'adresse au peuple et le peuple en partie, a un peu répondu lors des dernières élections. Alors c'est vrai que c'est très surgonflé par le vote utile, et c'est vrai que ça reste un vote très citadin, pas tellement rural. Il a quand même réussi à se réarimer dans des quartiers populaires qui votent assez peu, et ça c'est important. Il faut savoir quand même que dans certaines banlieues, dans certains quartiers où on a entendu pendant ce début de campagne Zemmour et Le Pen insulter finalement ces quartiers-là, les décrédibiliser, il y a eu ce retour de flamme, disons, modéré, mais quand même il y a un début de quelque chose, et dans l'esprit du fameux peuple de gauche, se réarrimer même de façon un peu maladroite, même de façon pas très glorieuse au peuple, c'est quand même ce qui reste le plus important.
Écoutez ce que nous disent les auditeurs par mail ou sur l'appli France Inter. Pourquoi un parti serait-il éternel? C'est ce que nous dit Frédéric. Delphine est sur l'appli et dit « Le PS était peut-être devenu plus centriste que social et c'est lui qui a accouché de Macron ». On a Fabrice qui est très sévère et qui dit « Mais Cazeneuve, Le Foll, Hollande, c'est qui? Une retraite bien méritée ». On en a un autre qui dit « Hollande a mis le PS dans le mur et les autres tentent de créer autre chose. Voilà un peu d'espoir ». Voilà ce qui tombe là en ce moment, un peu en cascade d'ailleurs sur l'appli
France Inter. Oui, bien sûr, mais ça c'est ceux qui
réagissent.
C'est ceux qui réagissent. On peut aussi dire, pour aller dans l'autre sens, que le PS et tous ces gens dont on vient de parler ont aussi mis ce parti face à la réalité et ont eu à gérer la réalité. Pour l'instant, on est avec ce qui se passe à gauche dans des discussions pour être les premiers de l'opposition. C'est un peu difficile de toujours opposer, enfin c'est un peu facile de toujours opposer ceux qui se sont fracassés au mur de la réalité et ceux qui sont encore dans l'utopie. Chacun est dans son rôle et la vérité est certainement un peu entre les deux. C'est la vieille phrase de Michel Rocard, la gauche c'est une tension entre le possible et le souhaitable, on est toujours là-dedans.
Et alors, faisons un peu de futur ou de la même des législatives, Rachid Laïrèche, parce que là, c'est un accord effectivement en vue de cette élection-là et on verra bien ce qui se passera derrière. Mais qu'est-ce qui se passe après pour la refondation? J'imagine qu'il faudra la faire, cette refondation du PS, refaire le congrès qui portera la marque 2022 ou 23, j'en sais rien. Elle se fait sur quoi? Elle se fait sur quelle assise? Et est-ce qu'il est prévu, cet exercice-là, de se repenser, de redire qui est le PS aujourd'hui et sur quelle base il repart?
Déjà,
c'est trop tôt.
Déjà, cet accord n'empêche rien. C'est-à-dire que chacun reste autonome, chacun a son parti, chacun a son groupe parlementaire à l'Assemblée. Donc celui qui veut travailler et refonder, il pourra le faire. C'est pas Mélenchon qui va dire non, toi tu te lèves, ils sont chacun autonome. Ça c'est très important. C'est pas hégémonique dans le sens où Mélenchon dit venez tous dans mon parti, dans mon mouvement et écoutez-moi. Il dit tout, il dit venez, on forme une coalition et chacun reste chez soi. Donc le PS, s'il veut se réformer, il peut le faire. Donc est-ce qu'il va pouvoir le faire? J'en suis pas très convaincu, je pense que la marque est quand même bien abîmée. Mais le rendez-vous raté avec les écolos, je pense qu'il faut peut-être reprendre le dialogue plus concrètement et essayer de monter un parti, on va dire social, écologiste, mais c'est possible de le faire. Mais ça commence, je dirais, après...
Dès le 19 juin.
Voilà, le lendemain, quoi.
Mais vous, c'est que vous dites que la marque est morte, Thomas Legrand. Moi, je me souviens des phrases de Manuel Valls il y a très longtemps. C'était à la primaire de 2007 qu'il disait il faut changer de nom. Est-ce que la marque est morte?
Je sais pas. La marque, non, je sais pas. Je pourrais pas dire ça. Ça vient de le Parti socialiste tel quel existe depuis Épinay. Le mouvement socialiste français existe depuis 1905 et puis il y a eu le congrès de Tours en 1920. On peut faire toutes les histoires. Ça s'est appelé la SFIO. Il y a toujours eu socialiste dedans. Ça va s'appeler peut-être différemment. Il y aura toujours, je pense, une offre de gauche démocratique qui essaye d'allier la modernité et la solidarité et le progrès. Et là, le progrès passe manifestement par une refonte idéologique qui passe par l'écologie. Et c'est ça, finalement, la social-démocratie, c'est un contrat entre le monde industriel, l'État et les syndicats. Maintenant, ce contrat, il doit être refondé autour du thème de l'écologie et plus simplement autour de la redistribution des richesses. On est dans une autre période du progrès. C'est une refondation presque philosophique. Mmh. Et donc, après, savoir s'il s'appellera le PS, ou vous savez, il y a eu le PSU, le PSA, le PS, la SFIO, peu importe.
Mais ça se fait en 10 ans, hein.
Oui.
Ouais. Eh ben, écoutez, donc, il y en aura d'autres des téléphones sonnent d'ici là. Frédéric est là. Bonsoir, Frédéric.
Allô? Oui, bonsoir.
Ouais, on vous entend, Frédéric.
Oui, bonsoir. Oui, je voulais apporter un témoignage, mais tout de suite, vous parliez de Valls à l'antenne. Moi, j'étais en pleine campagne des législatives il y a 20 ans, quand Manuel Valls demandait, en pleine campagne des législatives en 2002, quand il demandait déjà le changement de nom du PS. Voilà, donc il fait partie des fossoyeurs du PS, où j'ai été cadre pendant de nombreuses années. Et quand j'entends aussi Hollande être sur toutes les ondes pour dévoyer l'accord, les bras m'en tombent, quoi, parce que c'est un gars qui, pendant son mandat comme premier secrétaire, n'a absolument pas fait, grâce
il
à ses synthèses...
Il est passé sur toutes les ondes,
il a
fait un communiqué.
Sur beaucoup d'ondes, en tout cas, qui sont reprises sur les ondes, je veux dire. Voilà. Quand il était comme premier secrétaire, il a enterré toute réflexion idéologique, hein, grâce à ses synthèses miraculeuses. Vous les connaissez mieux que moi. Et depuis, quand il a été président, moi j'ai quitté le PS au moment où il a été désigné et qu'il a été président de la République. Et là, à l'entendre encore, non mais c'est effarant, quoi, je veux dire. On est à un tournant, l'écologie jusqu'en 2010, les accords entre partis, entre partenaires, notamment dans notre région, on ne voulait pas entendre des accords écologistes, on ne voulait pas entendre parler de justement cette refondation dont vous parlez à l'instant. Donc voilà, quoi.
Merci Frédéric. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est à vous deux que je m'adresse, Rachid Laïrèche et Thomas Legrand, c'est qu'on a le sentiment que ce qui n'a pas été fait ces derniers mois et qui va devoir être fait, chacun a envie, besoin, et nos auditeurs en sont témoins, de vider son sac. Il va falloir qu'on vide son sac au PS, en fait. C'est peut-être ça le premier exercice à faire à partir du 19, non?
Olivier Faure, il le vide depuis 5 ans. Hein. Il a fait un inventaire du quinquennat assez violent contre François Hollande. Donc,
il n'a pas réussi à prendre langue avec les écologistes pour pour refonder et avoir une offre présidentielle, parce que c'est ça, reprochent les...
Il n'est pas assez fort.
Il n'est pas assez fort, ouais.
Il n'a pas réussi. C'est un manque de force qu'il a, parce que le PS est affaibli, donc là, je pense que plus fort, il aurait pu le faire. Mais il a essayé, et ensuite, il y a Anne Hidalgo qui est arrivée dans le jeu.
Ils lui ont dit, c'est-à-dire que quand Anne Hidalgo est arrivée dans le jeu, comme elle avait une couleur assez écologiste à Paris, ils se sont dit peut-être que elle pourra, avec son équation personnelle, faire cette synthèse écolo-socialiste. Elle pouvait l'incarner, mais elle l'incarnait d'une façon très citadine. Et finalement, elle a pas su l'incarner. Le travail n'a pas été fait. Et c'est ce que reproche, ce qu'on entend là, cette colère et cet espoir qui est placé dans cet accord. Et c'est dire si vraiment les électeurs de gauche en veulent de l'espoir, parce que quand on regarde franchement cet accord, on s'est pas encore amusé à lire les différents textes qui sont totalement inapplicables et qui sont très flous, très ambigus. On ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment. Là, cette phrase s'applique. Je peux vous lire, par exemple, la partie sur l'Europe entre le PS et la France insoumise. Du fait de nos histoires, nous parlons de désobéir pour les uns, entendez les insoumis, et de déroger de manière transitoire pour les autres, entendez les socialistes. Il nous faudra être prêts à ne pas respecter certaines règles tout en travaillant à les transformer. Qu'est-ce que ça veut dire?
Rien.
Dans le gouvernement, ça ne veut rien dire. Ça peut, c'est des synthèses comme François Hollande savait les faire, c'est-à-dire qu'on fait des phrases ou que chacun peut signer, mais qui ne sont pas applicables en tant que telles. Peu importe, ça, c'est pour être finalement à la tête de l'opposition et pas pour gouverner.
Exactement comme sur le même thème, la phrase pour l'Europe écologie les verts, c'était rester dans l'état de droit.
Je vais vous la lire parce que la phrase sur le même thème signée par la France insoumise et Europe écologie les verts, d'abord qui est deux phrases, c'est très étonnant. Et donc il faut signer pour être en capacité, disent-ils, d'appliquer notre programme. Il nous faudra être prêt à désobéir à certaines règles européennes. Cela ne peut se faire que dans le respect de l'état de droit. Donc déjà, on désobéit dans le respect de l'état de droit, c'est quelque chose d'assez baroque, même si ça veut dire autre chose. Ça veut dire qu'on désobéit sauf sur toutes les règles de l'état de droit. Mais là, il y a avec Europe Écologie Les Verts l'idée qu'on puisse désobéir à certaines règles. Chacun l'avait théorisé d'ailleurs de son côté sur des thèmes différents. Julien Bayou avait écrit un livre sur ce thème-là d'ailleurs. Mais avec le Parti Socialiste, ça, c'est pas possible.
Écoutez ce que nous... Pardon. Allez-y, Rachid, si vous avez quelque chose à dire.
Mais Lionel Jospin, en 97, quand il fait la cohabitation, je crois que lui aussi, il fait un texte pour chaque parti.
Oui.
Pour les écologistes et pour les communistes. Donc Mélenchon limite.
Oui.
Il fait du Jospin.
Oui, mais quand vous êtes Jospin, c'est-à-dire que vous êtes le plus modéré de la bande, et que vous vous retrouvez avec Jacques Chirac, qui pense à peu près la même chose sur l'Europe, vous pouvez appliquer ça. C'est plus facile quand vous êtes le plus modéré de la bande de se rapprocher de la façon d'appliquer son programme face à la réalité que quand vous êtes le plus radical. C'est plus compliqué.
Écoutez ce que nous dit Michel. Je pense que ça va être compliqué, la validation au Conseil national, dit-il sur franceinter.fr. Je suis militant PS et il y a des circonscriptions où il y a beaucoup d'élus, mais on nous donne celles où ils savent qu'on ne pourra pas gagner et c'est très choquant. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de cette répartition? Parce qu'on se dit que les discussions ont beaucoup plus porté probablement sur le nombre et leur répartition que sur les fameuses discussions programmatiques sur lesquelles nous étions à l'instant. Et la question strapontin là-dessus, c'est faut-il imaginer beaucoup de dissidences, en fait? Qu'est-ce que vous en dites l'un et l'autre, Rachid Lahiresh?
Le PS a eu les circos des sortants, ce qui est pour eux très très important, et aussi des circos là où les maires sont élus, à Nantes, à Rennes, à Marseille, à Clermont-Ferrand.
Donc c'est des... Ils n'en ont pas à Paris?
Si, deux à Paris.
Ah, ils ont des circos à Paris.
Jérôme Gage dans le 14e, et une dans le 15e, je crois. Ils sont deux à Paris.
Ah d'accord.
Donc c'est très dur à gagner, donc deux à Paris. Et c'est pareil pour les écolos. Ils ont des circos à Poitiers, à Strasbourg, à Lyon, à Besançon, là où ils sont élus. Donc ils ont quand même vu un peu la géographie.
Et ce qui est normal, il faut être efficace.
Voilà. Ils ont été un peu. Donc le PS a eu... En fait, ce qu'il a demandé, quoi. Olivier Faure a dit à Mélenchon, en gros, tu veux que ça passe au CN, donne-moi des circos, là où
j'ai... National.
Oui, ou là où j'ai les grands élus. Et il a donné un peu de ville.
Anne nous attend. Bonsoir, Anne.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, Anne.
Alors donc moi je voulais dire d'abord que j'ai été de gauche, que j'avais toujours voté soit pour le Parti Socialiste, soit pour les écologistes. Par contre, je n'ai pas pu voter Mélenchon au premier tour. Et je pense que pour les législatives, je ne pourrais pas non plus voter pour une liste à la France Insoumise. Et donc moi, la question que je me pose, c'est que j'ai vu une évolution enfin, que je trouve inquiétante. Et je me demande si tous les gens qui sont comme moi, d'une gauche, on va dire, modérée, est-ce qu'ils sont vraiment conscients de ce que c'est que Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise? Est-ce qu'ils sont assez informés? Est-ce qu'ils savent vraiment toutes les compromissions, je trouve, de Jean-Luc Mélenchon avec, avec par rapport à la laïcité et tous ces revirements, tous ces retournements de veste? Et est-ce que les gens sont vraiment conscients de tout ça? Est-ce qu'ils votent en conscience de ça? Voilà, c'était mon interrogation.
Eh ben, merci Anne, on va la soumettre à nos invités. Je voudrais vous soumettre une autre auditrice qui est sur franceinter.fr et qui dit « Je vais enfin pouvoir voter à gauche aux législatives sans me prendre la tête et tant pis si je me trompe, je veux espérer ». Voilà, je voulais mettre ces deux en balance et en regard, Thomas Legrand.
Mais alors, d'abord, pour cette auditrice, il ne s'agit pas de liste, il s'agit de candidat. Donc je ne sais pas exactement dans quelle circonscription elle est, mais peut-être qu'elle aura à voter soit pour un socialiste, soit pour un écologiste, et là, elle pourra voter. Si elle ne veut pas voter pour un insoumis, si effectivement c'est un insoumis qui est désigné là où elle est, dans sa circonscription, par l'accord, elle ne pourra pas voter, donc elle ira peut-être, je ne sais pas, faudrait vous demander, sur le candidat d'Emmanuel Macron, je ne sais pas. Mais il faut bien savoir que avant de prendre des décisions, faut que vous regardiez, ceux qui ne sont pas d'accord avec cet accord, faut que vous regardiez tout simplement qui est dans votre circonscription.
Comme j'ai l'esprit très mal placé, j'ai une question à vous poser à l'un et l'autre. Au milieu de ces discussions sur notamment les circonscriptions, croyez-vous qu'il y ait eu aussi, au cas où le pari de Jean-Luc Mélenchon soit réussi et qu'il gagne ces élections législatives, croyez-vous qu'on a discuté aussi les sous et les ministères, une éventuelle répartition de ce point de vue ou pas du tout?
Les sous, c'est réglé. Vu que chacun a un groupe autonome, c'est très, très réglé. Chacun est indépendant financièrement.
Mais croyez-vous qu'à un moment, il y a eu une discussion qui disait, attention, il faudra aussi se répartir les Marocains, comme on dit?
Non, là, en ce moment, ils discutent encore du programme. Pour présenter samedi à Aubervilliers, lors du lancement de la campagne, d'un texte de proposition concrète au cas où on arrive au pouvoir. Donc ça, en ce moment même, ils en parlent encore. Donc l'accord est signé. Et là, il travaille encore dessus. Et
d'ailleurs, on est assez curieux de voir ce qu'il y aura dans ce programme, d'ailleurs, parce que là,
je crois qu'il y aura 100 propositions.
100 propositions, donc ils seront obligés de préciser les choses. Et quand on connaît les programmes de chacun, on a hâte de voir ce que ça peut donner.
Franchement, le programme, à part sur l'Europe et l'international, vu que le PS est revenu sur la retraite à 60 ans, qui veut abroger la loi El Khomri.
Oui, mais la retraite à 60 ans, c'est-à-dire que le PS dit...
Avec une nuance sur les carrières longues, etc.
Oui, le PS dit, de toute façon, la France Insoumise n'aura jamais la majorité absolue, il faudra que ça passe par là, ça va coûter 65 milliards, on peut peut-être mettre les 65 milliards ailleurs et ils négocieront plus tard. Donc il y aura beaucoup, à mon avis, de clauses de revoyure dans ce programme, où ce programme sera rédigé avec un futur et un conditionnel qui sera intéressant de décrypter. En tout cas, évidemment, j'imagine qu'il n'y a absolument pas eu à moins que Rachid ait des informations de discussion de ministère, parce que encore une fois, personne ne croit qu'il puisse y avoir, en tout cas, ils ne négocient pas comme s'ils allaient gagner. Alors que c'est
peut-être... Si, les insoumis le croient quand même.
Les insoumis le croient. Et certains insoumis le croient, mais franchement, les socialistes ne discuteraient pas de cette façon, et les écologistes ne discuteraient pas de cette façon s'ils pensaient que Jean-Luc Mélenchon serait Premier ministre dans un mois. Donc, ça change beaucoup de choses. Et effectivement, ça paraît... Alors, sur la possibilité de gagner, tous les sondeurs disent que c'est très compliqué, mais en fait, on ne sait pas comment vont réagir les électeurs de La République En Marche. Vous savez que c'est la première fois, on dit toujours, il y a toujours une majorité après une élection présidentielle, mais il n'y a jamais eu d'élection présidentielle, de réélection présidentielle au suffrage universel. De Gaulle, il n'avait pas été élu au suffrage universel la première fois, et puis les législatives, c'était pas le même système, c'était un septennat, il n'y avait pas l'inversion du calendrier. Bref, c'est la première fois qu'on a ça, et en plus, il y a une distance, le temps est plus long entre le deuxième tour de la présidentielle et le premier tour des législatives. Donc on ne sait pas très bien, est-ce que l'électorat de la présidentielle d'Emmanuel Macron, est-ce qu'il va se mobiliser, ou alors est-ce qu'il va faire comme pour les élections locales, c'est-à-dire ne pas voter pour Emmanuel Macron, parce que au municipal, au régional, au départemental, eh bien, ils n'ont pas été votés pour Emmanuel Macron. Donc il y a, alors, une petite inconnue là.
Et dans le cadre de mon esprit mal placé, comme tout à l'heure, je me demandais si, à l'inverse, cette vieille garde du Parti Socialiste, celle qui pour l'instant dit non à cet accord et qui le dit haut et fort, diriez-vous que ce sont désormais des prises à aller chercher pour La République En Marche ou pas du tout ?
C'est des proies plus faciles, évidemment.
Oui, mais ça dépend. Cazeneuve, oui, je pense. Cazeneuve, je serais pas étonné de le voir.
Oui, pas François Hollande.
Non, mais Cazeneuve, oui, c'est possible. Ensuite, il en a déjà pris beaucoup. Hein. Le Drian est déjà avec lui. Il reste très peu d'éléphants au PS. Hein.
Alors, Le Drian était resté parce qu'on était dans cette période-là et on ne voulait pas changer la tête des affaires étrangères à ce moment-là.
Oui, c'est déjà complet, quoi. Il y a déjà beaucoup de monde au PS. Il y a Valérie Rabault qui a refusé le poste à Matignon. Mais sinon, il y a très peu de prises. Je pense qu'on risque de voir des députés PS, peut-être 4-5, qui sont actuellement au PS, refuser l'accord et rejoindre En Marche. Ça, c'est possible.
Et être investi par En Marche ?
Oui, ça, c'est possible.
Eh bien, écoutez, on verra. J'ai une toute dernière question très rapidement. Il nous reste 15 secondes. Est-ce que vous pouvez nous guider sur ce à quoi va ressembler le Conseil national ? Donc, demain, ça se passe comment ? On lit, on intérine, il y a grand débat, ça peut durer des heures. Comment ça se passe, en fait ?
C'est des prises de parole par motion. Ils ont un temps de parole en fonction de la majorité. Ceux qui sont plus nombreux parlent plus longtemps. Et ensuite, il y a un vote. Donc, ça se fait en visio et en physique. Et je pense qu'ils seront, je sais pas, environ 200, je pense.
Il y avait une majorité pour envoyer les émissaires négocier avec la France Insoumise. Est-ce que cette majorité, qui n'était pas un plébiscite, hein, c'était une majorité, je crois, de 75%,
oui.
Est-ce que cette majorité va s'effriter au moment de ratifier la signature ?
Eh ben écoutez, on verra ça demain. Chaque jour suffit sa peine. Merci beaucoup, merci à tous les deux, merci à tous pour vos très nombreux appels.